Jésus creuse le désir de l'homme. Jésus est en train de creuser notre propre désir. Et comme à la Samaritaine, il nous demande « De quoi as-tu faim ?»«
Oh, j'ai faim de pain. J'ai faim de nourriture terrestre. » Mais, comme le dirait Jésus, « Bah oui, vous avez mangé tout en-dessous, et vous aurez encore faim demain. »
Donc il y a quelque chose de plus important que la nourriture qui nous rassasie. Il y a la faim. Si vous prenez la faim comme un signe dirigé vers vous-même, vous allez essayer de manger pour vous rassasier. Si vous prenez la faim comme le signe d'un désir inassouvi, qui est en vous, vous le prenez comme le signe de Dieu. La faim est le signe que Dieu est en moi. Quand je désire, l'objet de mon désir est en moi. Il n'est pas en dehors de moi. Ça n'est pas facile à comprendre. Un juge le comprend quand même. Je
crois que vous l'avez déjà raconté, ce que vous m'avez dit il y a déjà longtemps, il y a plus de 20 ans. C'est un ami juif. Et il dit, quand tu as soif, toi tu cherches à boire. Quand j'ai soif, moi j'ai dit merci à Dieu. Parce qu'il m'a donné la soif. J'ai soif, donc l'eau existe. Tu as soif, tu veux chercher de l'eau pour toi. C'est la même soif, mais on ne la voit pas de la même manière. C'est vrai. Je pleure. L'absence d'un être cher. Donc, je peux faire attention à la blessure qui est dans mon cœur, et la peine devient ma peine. Ou bien, je dis, mais l'amour est fort, puisque j'ai tant de peine. Donc, la peine devient ma joie. Parce que je découvre quel est le signe de l'amour. Voilà ce que Jésus est en train de raconter à ses gens. Un tout petit quelque chose de ce qu'il est en train de dire. Vous avez un désir profond en vous, et je vais tout de suite m'expliquer sur le désir, dont Dieu est présent en vous. Si vous regardez l'objet de vos désirs, vous allez mettre la main dessus. Si vous regardez la profondeur du désir, vous n'avez plus besoin de mettre la main dessus parce que vous découvrez que Dieu est en vous. C'est simple. Vous voyez, il y a une grande différence dans la Bible entre le désir et la convoitise. La convoitise, c'est un désir pour moi. Et le désir, c'est une promesse de Dieu. Voilà. Une promesse pour moi, donc je regarde le désir à partir de moi. Ta convoitise te portera vers ton mari et il dominera sur toi, chapitre 3e de la Genèse. Et à la convoitise, c'est-à-dire vouloir prendre l'autre, vouloir s'accrocher à l'autre ou accrocher l'autre à soi, ça c'est fond, se vouloir soi-même dans l'autre. Tandis que, à partir d'Abraham, le désir devient promesse. Abraham est un monsieur qui a deux désirs. Donc il y a deux promesses. Et ces deux désirs, il voudrait bien avoir des enfants. Mais quand on a un enfant, il n'est pas pour soi. Il est pour l'autre. Et il voudrait bien avoir une terre. Et il n'aura jamais de terre. Abraham n'aura jamais de terre. Sa descendance en aura une et la perdra. Et la retrouvera, si possible, spirituellement. Ce n'est pas encore venu le jour. Quand on a une terre, on y tient. Quand on a des enfants, on y tient. Et quand Abraham, nous avons vu ça, hein, en voyant la Genèse, quand Abraham veut avoir un enfant à tout prix,
puisque je veux avoir un enfant à tout prix, je cherche une mère porteuse, et là, regarde.
Et puis Dieu lui dit, mais non, c'est pas celui-là que je voulais te donner. Ça, c'est un enfant que tu t'es donné à toi-même. Moi, je vais te donner un enfant gratuitement. Pas à tout prix, mais en comme une surabondance. Ça, c'est Isaac. Quand tu peux bien rire. Tu peux bien l'appeler rire de Dieu. C'est dans cela qu'on voit, oui, c'est dit d'une manière un peu romancée, hein, un récit, mais c'est dit d'une autre manière. Le désir vient toujours de Dieu, et le désir profond est toujours bon. Mais le désir nous met en liberté. Qu'est-ce que nous faisons avec? Ou bien nous en faisons une convoitise, ou bien nous en faisons un signe du don de Dieu. Alors on ne met pas la main dessus. On le reconnaît comme un cadeau de Dieu. J'ai faim, donc le pain existe. J'ai faim, donc je vais à la boulangerie.
Pouvoir faire les deux.
Voilà. La question, c'est de faire l'un dans l'autre. La question, c'est de découvrir que le pain que j'achète à la boulangerie n'est que le signe d'un autre pain que Dieu me donne. Eh bien, cela m'est dit d'une façon tout à fait cohérente. Je reçois un tout petit morceau de pain qui ne me rassasie pas. Et quand je reçois ce tout petit morceau de pain, je dis, c'est le pain descendu du ciel. Je ne suis pas rassasié par le pain, mais je suis rassasié par Dieu, que le pain signifie, que le pain est pour moi maintenant. Donc oui, que ce discours est bien sûr un discours eucharistique, et les pères de l'Église ont bien vu en disant que tout cela, c'est vraiment la réalité eucharistique. Et on a appelé Saint Jean l'évangéliste sacramentel. Seulement l'évangéliste théologique, l'évangéliste spirituel, mais l'évangéliste sacramentel. C'est celui qui parle le plus, nous le verrons encore tout à l'heure, le plus de sacrements.
Oui, il baptise pour manifester la présence de Dieu,
ce sacrement. Il manifeste le pain, Dieu devenu chair. C'est vraiment l'incarnation. Toute la dimension sacramentelle est présente à travers les réalités concrètes. Il murmurait donc les yeux. Voilà. Et quand on vous dit les choses qui dépassent le carton, les juifs sont les hommes. Qui dépassent leur carton, on murmure. Là aussi, les murmures. Vous les trouvez, les murmures, dans le Deutéronome, au chapitre 8, où vous avez tout le temps des tentations, hein. On murmure, et où le Seigneur t'a humilié, parce qu'il t'a fait sentir la faim, il t'a donné à manger la manne, que ni toi ni tes pères n'aviez connu, pour te montrer que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. Mais on murmure constamment contre moi. Vous trouvez ça déjà, hein, au chapitre le 16e de l'Exode, au chapitre 17 de l'Exode, on murmure. Murmurer. Murmurer, c'est trembler au bout du dragon. Ça n'a pas de sens. Autrement dit, ça n'a pas de sens pour moi. Et je ne désire pas entrer dans le sens que ça pourrait avoir. Murmurer donc les Juifs à son sujet parce qu'il avait dit. Moi, je suis le pain qui descendit du ciel. Que vous avez. Alors, ils emploient leur jugement, hein, leur bonne intelligence. Ah, celui-ci n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph? Est-ce qu'il n'est pas Jésus, le fils de Joseph? Dont nous savons. Ah. Le père et la mère. Nous savons le Père. Comment maintenant, dit-il, du ciel je suis descendu? Il faudrait quand même s'entendre. Ni descendre, ni de volonté d'homme. Hein.
comment est-ce qu'ils comprenaient, eux, le destin du ciel?
Je crois qu'ils le comprenaient comme,
comme
la parole de Dieu.
Vous pouvez lire de mon côté au chat de Dieu.
Non, je crois la parole de Dieu qui descend comme la manne. Je crois que l'image est tirée de la manne. La manne vient du ciel parce qu'elle vient, on l'a vu quand on a vu les textes sur la manne, elle vient au fond de la rosée du ciel, qui se met à faire vivre ces petits arbrisseaux secs et les fait sécréter cette sève qui est un peu comme de la résine. Les damirés, le tribu du désert du Sinaï, c'est pas les damirés, les damirés sont plus loin. Les tribus du désert là-bas mangent encore cette manne. Enfin, la mange comme du chewing-gum. Hein. C'est un goût très fade, mais ils la mâchent comme du chewing-gum. Quand il en vient. Pas toute la saison. Le mois de juin, juillet maintenant, c'est une bonne saison. Il y a beaucoup de. Il y a une grande différence de température entre la journée et la nuit. La condensation est très forte, et alors, cette manne se sécrète. Et on en fait comme des petites hosties. Donc, c'est vraiment Dieu qui le donne. Le pain qui vient du ciel, c'est Dieu qui donne, en fait. Et Dieu qui donne par une intervention particulière. Donc c'est toujours signe d'un amour, d'une attention en tout cas. Mais toi tu descends du ciel, maintenant tu viens de ton père et de ta mère. Comme, c'est un petit peu comme Nicodème, hein, qui ne voulait pas comprendre qu'on puisse renaître. Il répondit Jésus et il leur dit, ne murmurez pas les uns avec les autres. Vous voyez que Jésus se trouve dans la situation de Moïse, contre lequel on murmure. Celui qui donne à manger, mais ce n'est pas Moïse qui est descendu du ciel, hein? C'est la manne qui est descendue du ciel, que Moïse donne. Ah oui, pourquoi il se dissocie de Moïse dès le départ? Mais cependant, il se trouve en situation de Moïse, puisque c'est lui qui donne à manger. Mais la différence, c'est qu'il se donne à manger lui-même. Ça, c'est nouveau. Comment peut-il dire « il se donne à manger lui-même » Bon, ils comprennent bien qu'il y a quelque chose de métaphorique, nous dirions aujourd'hui symbolique, mais ils ne voient pas. Ils murmurent les uns contre les autres, est-ce qu'il pourra nous donner à manger, comme les Hébreux au désert. Donc Jésus reprend, de nouveau au-dessus de l'assemblée, « personne ne peut venir auprès de moi si éventuellement le Père qui me mandat ne le prend. » Autrement dit, ce n'est pas de vous-même que vous venez. Quand vous venez vers moi, c'est qu'il y a un désir. Vous me cherchez parce qu'il y a un désir en vous. Eh bien, ce désir est présence de Dieu. Tu désires aimer, c'est que Dieu aime en toi. Tu désires être aimé, c'est que tu es aimé par Dieu. Voilà ce qu'il est en train de nous raconter. Et ça, vous savez, le Midrash le dit déjà. Et donc, Jésus, probablement, en avait déjà connaissance, ne fût-ce que par le Midrash. Le Midrash creuse la réalité du désir. Donc, déjà, un commentaire juif. Les commentaires juifs que nous avons datent du deuxième siècle après Jésus. Mais les traditions remontent plus haut. Et nous savons, par exemple, par Matthieu, que des traditions midrashiques existaient déjà à l'époque de Jésus. Mais nous ne pouvons pas dire explicitement que ce midrash, Jésus l'a connu, parce qu'il était déjà colporté parmi les rabbins. Donc il répondit Jésus, il leur dit, ne murmurez pas les uns avec les autres. Personne ne peut venir auprès de moi, si éventuellement le Père qui me manda, me le tire. Et moi, je le susciterai dans le dernier jour. Donc, le Père tire, et moi je suscite à l'intérieur. Donc, il y a un double mouvement. Donc, il y a une sorte de convergence des forces. Une force extérieure, Dieu attire. Pourquoi Dieu attire-t-il? Parce que chaque homme est une image de Dieu. Et une force intérieure, parce que je suis une image de Dieu dans chaque homme. Il est, se trouvant écrit dans les prophètes, faire lui aussi un super midrash, ou un midrash au-dessus de l'autre. Il va chercher Isaïe. Et il prend au chapitre 54e d'Isaïe. C'est pas n'importe quel chapitre, ça nous avons vu, je ne sais pas si vous vous rappelez. 54, c'est celui d'hiver
52-53.
Hein. Ah, bien. À tout hasard. Et 52-53, c'est le serviteur souffrant. Et vous savez que c'est grâce aux souffrances du serviteur que Jérusalem, qui est campé au chapitre 54e, le personnage féminin, que Jérusalem est en quelque sorte reconstruite. Et Jésus cite précisément un passage touchant Jérusalem. « Ô malheureuse, je suis au chapitre 54e d'Isaïe, verset 11, et suivant. « Ô malheureuse, battue par les vents, inconsolée, voici que je vais poser tes pierres sur des escarboucles et tes fondements sur des statues. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes de cristal et toute ton enceinte de pierres précieuses. » Vous comprenez que derrière ces pierres précieuses, il y a une femme que l'on part, que l'on orne de ses bijoux. C'est le bien-aimé qui orne sa bien-aimée de rubis, de saphir. Tous tes fils, vous voyez que c'est une femme, tous tes fils seront instruits par le Seigneur. Ah voilà. Ils seront tous enseignés par le Seigneur. Grand sera le bonheur de tes fils. Tu seras fondé sur la justice, à l'abri de l'oppression, car tu ne craindras plus, à l'abri de la terreur, car elle ne t'approchera plus. Si l'on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. Qui s'attaquera à toi, tombera à cause de toi. Voici, c'est moi qui ai créé le forgeron, qui souffle sur le feu de braise, et en tire des armes qu'il doit travailler. Mais c'est moi qui ai créé le destructeur pour les anéantir. Donc ici, c'est la nouvelle Jérusalem qui apparaît, et ce texte sera repris dans l'Apocalypse, bien entendu. Ils seront tous enseignés de Dieu. Et oui, c'est une parole de sagesse. Tout le monde finira par découvrir que Dieu l'enseigne au fond de son cœur, que la source de son désir, c'est Dieu. Tout qui entendit de chez le Père et qui apprit vient auprès de moi. Lorsque vous entendez votre désir profond, vous découvrez la source de Dieu en vous. Il redit la même chose qu'à la Samaritaine, avec d'autres images, et il apprend. Il apprend. Et cet apprentissage l'amène auprès de moi. Il devient disciple. Non que le Père, quelqu'un l'ait vu. Attention. On ne l'a pas vu le Père. Même pas Moïse qui le voyait face à face. Sinon celui qui est de chez Dieu. Ah, il pourrait dire, oui, mais Moïse. Celui-ci a vu le Père, celui qui est de chez Dieu, donc qui est descendu. Amen, amen, je vous dis, celui qui croit a vie éternelle. Moi, je suis le pain de la vie. Vos pères mangèrent dans le désert la manne. Passage du psaume. Et ils moururent. Et bien que la manne était un aliment temporaire, caduque. Celui-ci est le pain qui du ciel descend. Il faut faire un geste. Afin que quelqu'un de lui mange et ne meure pas. Moi, je suis le pain, le vivant. Le pain de la vie. Et maintenant, le pain du vivant. Donc, il semble parler du pain de la vie comme d'une métaphore, et maintenant, je suis le pain et le vivant. Il semble, par cet adjectif, intérioriser encore davantage cette réalité qu'il est. Celui qui du ciel descendit, si éventuellement quelqu'un mange de ce pain, mais ce pain, il l'identifie à sa personne. Il vivra vers l'éternité, pour toujours. Or, et maintenant, il devient clair, le pain aussi que moi, je donnerai, je commence à donner, termine à compris, il est ma chair fragile, ma fragilité pour la vie du monde. Et voilà quelque chose d'inouï. Qu'un homme puisse se donner ainsi à manger. Et de nouveau, la question de Pierre surgit, qu'est-ce qu'ils ont pu comprendre? Quand Jésus parle de la sorte, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je suis le pain descendu du ciel, le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Ils comprennent certainement quelque chose. Ils comprennent qu'il y a une solidarité extraordinaire entre cet homme qui se dit Dieu et eux. Ça, ma chair, nous partageons la même chair. Mais il se trouve arrêté par quelque chose d'inouï que Dieu puisse être chair. Ça ne va pas. Dieu est esprit, il n'est pas chair, pas fragile. Ils se battaient donc les uns les autres à la tête de l'autre. Ça n'est plus seulement du murmure, c'est de la discussion. Et on se crêpe le chignon. Disant, comment peut-il celui-ci nous donner chair à manger? Ou bien, suivant certains manuscrits, sa chair à manger. Comment il peut vraiment nous partager sa fragilité? Chacun est quand même, finalement, coincé dans sa propre réalité. Il leur dit donc, Jésus, et vous voyez, c'est chaque fois les questions qu'on lui impose en quelque sorte d'aller plus loin. Malheureusement, vous voyez, quand nous avons ces textes, nous les avons par petites tranches, et on perd tout à fait le raisonnement, ce qui n'est d'ailleurs pas facile à suivre. Il leur dit donc, Jésus, amen, amen, je vous dis, si éventuellement vous ne mangez pas, oh, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez pas son sang, et voilà qu'il ajoute sang, la chair, ça devient un peu plus clair. Parce que l'homme est constitué dans une unité de chair, de fragilité et de sang. La vie de toute chair est dans son sang. Un adage qui revient continuellement dans le Lévitique. C'est pourquoi on ne peut pas prendre du sang, ni du sang d'animal, ni du sang d'homme. La vie de toute chair est dans son sang. Le sang qui coule est le signe de la vie qui vient de Dieu. Le sang est en quelque sorte sacré. Le sang est porteur de vie. C'est pourquoi, je vous l'ai dit, on pensait que dans l'union conjugale, il y a une sorte d'échange de sang. Va très loin. Le sang signifie la vie qui m'est donnée par Dieu. Et on mange, on ne prend pas du sang, on ne consomme pas du sang quand Dieu nous interdit. Donc voici que Jésus propose cet interdit de la loi comme un commandement. Un. Et deuxièmement, il l'identifie à sa propre vie. Deux. Ça va loin. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas vie en vous-même. Et il le donne comme condition sine qua non. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est terrible. Et alors, il va plus loin. Il passe encore plus loin. Il avait dit manger. Il dit maintenant marcher. Il emploie encore un autre mot. Celui qui marche, marchait. Parce qu'on pourrait comprendre manger spirituellement. Et Confucius savent très bien ce que c'est manger spirituellement. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La nourriture, la loi de Dieu est une nourriture qui me nourrit.
Mais lui qui marche, ma chère,
et qui boit mon sang, a vie éternelle. Et moi, je le susciterai pour le dernier jour. Donc c'est que je deviens une source de vie éternelle en lui. Et je le susciterai au dernier jour. Hein. Jésus ici est de nouveau d'accord avec les parisiens pour croire à la résurrection. Mais au dernier jour, ne me demandez pas ce que c'est le dernier jour, c'est le jour dernier. Alors, quand il dormait, car ma chair est vrai aliment et mon sang est vrai poisson. Donc, celui qui mâche ma chair et qui boit mon sang, en moi il demeure et moi en lui. Si on comprend un petit peu mieux, ça veut dire qu'il y a une conjonction, une intimité formidable. Puis de nouveau, il raccroche le Père ici. Selon qu'il m'envoya le Père qui vit, et que moi je vis par le Père, attention, je ne donne pas une vie qui vient seulement de moi. Je donne la vie que Dieu donne. Donc je suis le passage obligé de la vie et de la vie que Dieu donne. Selon qu'il m'envoya le Père qui vit et que moi je vis par le Père, aussi celui qui me marche, celui-là vivra par moi. Est-ce qu'il ne suffit pas de croire? Ah non. Il faut croire et il faut le sacrement. Il faut non seulement croire en Dieu, mais il faut encore pratiquer. Et pas pratiquer n'importe quoi, il faut s'assimiler la vie de Dieu. Il faut se l'assimiler parce qu'il s'est assimilé à moi. Celui-ci est le pain qui du ciel descendit, pardon, non pas selon qu'ils mangèrent les pères et moururent, voyez bien qu'ils sont morts ceux-là. Celui qui mâche ce pain vivra vers l'éternité. Ceci est une petite leçon sur l'Eucharistie, théologie eucharistique. Et c'est vrai que les pères de l'Église et le Concile de Trente ont pris leur leçon sur l'Eucharistie de ce texte et de ceux de l'institution. Cela, il le dit en synagogue, enseignant en Capharnaüm. On était à Capharnaüm au début, à la synagogue, et on le redit à la fin. Beaucoup d'entre ses disciples, donc, ayant entendu dire, dure est cette parole, qui peut l'entendre? Et dure dans tous les sens. Dure, on ne parvient pas à comprendre. Et dur parce que si on ose essayer de la comprendre, on est presque obligé de la rejeter. Or Jésus, sachant en lui-même qu'il murmurait à son sujet, ses disciples, leur dit, ceci vous scandalise. Ça fait un obstacle à votre foi. Qu'est-ce qui fait un obstacle à votre foi? Votre raisonnement. Votre manière de percevoir les choses. Et vous avez du mal d'accepter quelque chose qui vous est déjà, en quelque sorte, suggéré par la sagesse, par les psaumes, par Isaïe. Cela vous scandalise. Si éventuellement donc vous observez le Fils de l'homme montant, là où il était auparavant, il est descendu, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que moi je vais monter vers le ciel, je vais me donner raison. L'esprit est le vivifiant. Celui qui donne chair, et celui qui donne vie, c'est l'esprit. La chair n'aide en rien. Et pourtant, je vous donne ma chair. C'est-à-dire, je vous donne de ma limite, je vous donne de ma pauvreté. Et c'est ça que vous ne parvenez pas à accepter. que Dieu se fasse homme pour que l'homme devienne Dieu, ça ne va pas. L'esprit est le vivifiant, la chair n'est en rien. Les paroles et vêtements que moi je vous ai parlé, esprit elles sont, et vie elles sont. Mais il y a certains d'entre vous qui ne croient pas. Notre foi est toujours une foi d'incroyant. Car il savait du commencement. On retrouve le commencement. Il savait du commencement, Jésus, qui sont ceux qui ne croient pas et qui est celui qui le livrerait. Ah ah. Petite annonce de la passion, c'est vrai, fils. Et qui est celui qui le livrerait. Et il disait, en raison de ceci, je vous ai dit que personne ne peut venir auprès de moi si éventuellement il ne se trouve donné à lui. Autrement dit, le don de Dieu est toujours libre. Il s'adresse toujours à des libertés d'homme, comme notre vie. Nous avons reçu notre vie comme un cadeau. Qu'est-ce que nous en faisons? De ceci donc, beaucoup d'entre ses disciples, s'éloignèrent vers l'arrière. On retourne dans la case des marches. Et avec lui, ils ne marchaient plus. Difficile d'aller jusqu'à la première communion. Et parce qu'on se rend compte qu'après, on va peut-être continuer. Et on se rend peut-être compte de l'obstacle qui est en nous. Pourquoi Jésus, dès le départ, ici, dit ce qui le livrerait. Il dit donc Jésus aux 12. Il parlait à la foule, et puis il y avait des disciples au verset 61, et puis maintenant il s'adresse aux 12 au verset 67. Est-ce que vous aussi, vous voulez partir? Donc ça c'est la question de la liberté. Donc, si vous voulez, vous pouvez marcher avec moi, si vous ne voulez pas, vous pouvez ne pas marcher avec moi. Est-ce que vous aussi, vous voulez partir? Il lui répondit, Simon Pierre, on avait parlé de celui qui le livre, on n'a pas donné le nom à celui qui le livre. Tandis que Simon Pierre, ici, a un nom, Seigneur, auprès de qui nous éloignerons-nous? Parole, événement de vie éternelle, tu as. Il a découvert qu'il y avait une connexion entre son désir profond et ce que disait Jésus. Donc il y a coïncidence du témoignage extérieur et du témoignage intérieur. Donc il ne peut pas récuser la foi qui est en lui. Parole, événement de vie éternelle. Et nous, nous avons cru et nous avons connu que toi, tu es le Saint. Le dernier mot est appuyé. Le Saint de Dieu. Le Saint de Dieu, c'est presque la même chose que le Dieu Saint. Le Saint, c'est vraiment celui que Dieu envoie, que le Dieu Saint envoie vers nous, comme le signe de sa sainteté. Il leur répondit, Jésus, n'est-ce pas moi, qui vous, les 12, vous ai choisi? Et d'entre vous, un seul est diable. Calomniateur. Or il disait cela, Judas, fils de Simon, l'Iscariote, car celui-ci allait le livrer, étant un seul d'entre eux. Il dit d'abord un seul, et puis alors, ça c'est la réflexion de Jean, cet homme a un nom, il est Judas de Simon Iscariote. Comme je vous ai déjà dit, Iscariote vient probablement de l'araméen Yaskar Yote. Yaskar veut dire il livra, Yote veut dire lui. Donc Iscariote est vraisemblablement, c'est l'explication la plus plausible de toutes celles qu'on a déjà été données, parce qu'elle ne fait pas faire d'entourloupette. Certains ont dit que c'était Ish Kériot, un homme de Kériot. Et c'est vrai que la ville, enfin plutôt, Kérion, c'est un pluriel, les villes. Et certains ont pensé que c'était une malformation de Sicarius, celui qui porte un glaive, un sicaire, en grec, mais avoir le nom, et surtout que chaque fois que le nom est dans les évangiles, pas chaque fois, mais très souvent, quand le nom est dans les évangiles, on explique celui qui le livra. Bon, précisément, Iascariote veut dire il le livra. Il livra tout. Il est cela de Judas, vous savez que Judas signifie la louange, Yehuda, la louange, fils de Shimon, celui qui écoute, l'Iscariote, donc celui qui le dit. Ce qui veut dire qu'au cœur même de la foi des douze, il y a toujours une tentative, une tentation de le livrer, c'est-à-dire de ne pas croire. Il y a toujours une incroyance des croyants. Notre foi n'est jamais 100% chimiquement pure. Bon, voilà un premier parcours. Nous arrêtons ici. Et nous referons, si vous voulez bien, et la parole. Et ça va jusque la parole, c'était chair. Donc, les 14 premiers versets, en quelque sorte, pas tout à fait, mais c'est ce mouvement-là. Il est même qui dans tout ça. Donc découvrir à qui nous croyons. Puisqu'il nous avait dit dans le prologue, vous vous rappelez, que à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir pour devenir enfants de Dieu, et ceux qui l'ont reçu, il en donnait immédiatement la définition, à ceux qui croient en son nom. C'était vraiment le cœur du prologue. Eh bien, c'est ce cœur du prologue qui va être explicité ici. Non pas encore la dimension d'avoir l'autorité de devenir enfant de Dieu. Il faudra attendre jusqu'à la troisième section pour découvrir cela. Mais il y a au moins la proposition de Jésus. Comment Jésus se manifeste-t-il ? Et ces différents titres de Jésus, je les ai mis en rouge, ici tout autour et à l'intérieur. Sur le trait rouge qui reprend le mouvement de descente et de remontée, j'ai mis des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui indiquent les 10 chapitres. Vous avez bien vu, avec chaque fois un petit trait pour dire la limite de ces différents chapitres. Et donc, si je fais l'évangile de Saint-Jean de cette manière-ci, c'est pour qu'on ne l'enferme pas, même si je vous avais donné une sorte de cadre enfermé, pour qu'on ne l'enferme pas dans un cadre. C'est vraiment une trajectoire. Donc, pour croire à Jésus, il faut le recevoir. C'est bien le jeu que vous avez au début. Donc, c'est une proposition de liberté. Comment Jésus va-t-il se manifester progressivement à l'homme aux hommes ? Il se manifeste pas n'importe où. Bien sûr qu'il est là pour chaque homme, puisqu'il nous a donné autorité pour devenir enfants de Dieu. Tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Et puis, immédiatement après, au verset 14, la parole chère arriva et elle planta sa tente en lui. Comment la parole devient-elle chère ? Et quel assentiment ? Quelle réponse demande-t-elle ? Alors, nous avons vu d'abord que Jésus est introduit. Il n'est pas un aérolithe tombé du ciel, il est introduit. Pas par n'importe qui, mais par Jean le prophète. Et nous avons vu que le personnage de Jean est un personnage qui figure deux réalités. Il figure la réalité prophétique, l'Ancien Testament, qui introduit Jésus, et en même temps, il est la figure de Jean l'évangéliste, celui qui va introduire tout croyant à Jésus. Alors, vous voyez, le mouvement peut paraître un peu compliqué, mais Jean-Baptiste est à la fois le personnage historique et un peu tout homme.
Et c'est vrai que vous rencontrerez dans l'Évangile, nous en avons déjà rencontré un certain nombre de personnages qui ont un nom historique, un nom déterminé, Nicodème, un nom déterminé. Et vous avez un certain nombre de personnages qui n'ont pas de nom déterminé. Alors là, il y a un jeu dans l'Évangile de Jean entre la réalité historique de départ et la réalité figurative que chacun porte en lui. La Samaritaine, on ne sait pas son prénom. Elle est femme. On n'a pas vu que la mère de Jésus s'appelait Marie. Elle est la mère de Jésus. Il y a quelque chose à la fois très proche, on dit la mère de Jésus. On dirait qu'elle elle existe à partir de son enfant. Mais en même temps, ça donne à chacun d'entre nous la possibilité de prendre, de donner un visage à la mère de Jésus. C'est ce que Jésus dit. Nous n'avons pas le passage dans Saint Jean, mais nous l'avons équivalemment dans les évangiles synoptiques. Quand sa mère et ses frères viennent le trouver, qui est ma mère, qui sont mes frères, celui qui fait la volonté de mon père qui est dans les cieux, celui-là met un frère, une sœur, une mère. Alors, le disciple que Jésus aimait, qui va venir, est-ce que c'est Jean? Oui, mais on ne vous dit pas que c'est Jean. Vraisemblablement, par recoupement, on peut penser que c'est Jean. Mais en même temps, oui, c'est Jean et ce n'est pas Jean. Judas, celui qui le livra. C'est Judas et c'est tout qui livre Jésus. Et ça, c'est une des caractéristiques de l'évangile de Jean. Ça existe aussi chez les autres, mais d'une manière presque systématique chez Jean. Alors, Nicodème, on voit bien que c'est un personnage historique, mais il va revenir à un certain nombre de moments qui sont des moments clés dans l'évangile de Jean. Et donc, celui-là, on marque vraiment deux choses. Son lien avec le pharisaïsme, les pharisiens, et en même temps, son lien avec Jésus. Et il est, en quelque sorte, un personnage charnière, comme d'autres aussi dans les autres. Donc, Jean-Baptiste est un personnage vraiment important. Il l'est pour les évangiles synoptiques, il l'est d'une manière particulière chez Saint-Jean, parce que nous avons vu qu'il revient. Et il revient, donc d'abord, il est donné comme un personnage indispensable par l'évangéliste dans le projet. C'est lui qui s'est nommé comme ça. Il fait partie de la médiation pour que le témoignage soit rendu. Il y a une introduction. Il va montrer, lui, Jean-Baptiste, qu'il doit faire lui-même une conversion du non-savoir au savoir. Il ne savait pas et il a su. Par quoi est-il arrivé à savoir? Comment est-il arrivé? Par l'esprit. On ne nous explique pas au départ qui est l'esprit. Mais on dit que celui sur qui il verra l'esprit reposer, c'est celui qui baptise en Esprit Saint. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendant et demeurant sur lui, celui-ci est celui qui baptise en Esprit Saint, et moi j'ai vu, et j'ai rendu témoignage que celui-ci est le Fils ou l'élu de Dieu. Donc, en quelque sorte, Jean-Baptiste sait déjà tout. Mais il a appris à savoir. Et c'est en cela qu'il est le prototype du disciple. Il est celui qui acquiert l'esprit de la sagesse qui est Jésus. Mais cette sagesse, c'est d'être chair. Et donc c'est le mouvement de la sagesse, c'est-à-dire le mouvement de se déposséder de ce qu'on ne sait pas, ou de ce qu'on sait, pour recevoir à nouveau frais la nouvelle sagesse qui nous est présente. Alors, que dit Jean-Baptiste? Il est le point de départ de la nomination de Jésus. Comme Adam, qui avait été amené devant les animaux pour nommer, c'est-à-dire pour appeler, pour faire comme Dieu. Dieu appelle les êtres à l'existence, et une fois que les animaux sont là, et que l'homme est là, Dieu appelle à la rescousse, de bon dictionnaire, Dieu. Alors, il a besoin de l'homme qui a fait le dictionnaire pour nommer les amis. Et Jean-Baptiste est celui qui crie. La voix qui donne, en quelque sorte, sa stature à celui qui vient. Et comment l'appelle-t-il l'agneau de Dieu? Important de voir que Jésus est introduit comme l'agneau de Dieu. Et nous avons vu que l'agneau de Dieu est une figure difficile à déterminer de façon précise. Jean n'est pas précis. Jean travaille un peu dans le flou des images.
Et les images se superposent. Nous avons vu que l'agneau de Dieu, ça peut être des réalités différentes. Et dans l'Église primitive aussi.
Mais, de toute manière, elle fait référence soit à la Pâque, soit à un sacrifice, à un passage par la souffrance, un passage aussi par le silence. Celui qui sait est passé dans le silence. Celui qui se révèle à travers une sorte d'évacuation de lui-même, de kénose, comme dit le Père de l'Église. Donc, l'indication qu'il fait à ses disciples est importante. En même temps, cette indication est le passage des disciples vers Jésus. Mais vous remarquerez que l'image qui est prise au départ est une image animale. Elle n'a pas encore vraiment de Jésus lui-même. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que Jean-Baptiste fait un petit peu comme Adam, l'homme des animaux, mais cet animal-ci. C'est un animal qui figure une réalité. Et maintenant, ce personnage va se présenter lui-même, celui qui est annoncé comme l'agneau de Dieu. Comment le découvre-t-on? On peut découvrir Jésus par révélation immédiate, mais généralement, c'est par cooptation. On dit son nom.